De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Mais enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique. C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, on aurait pu vous parler du film de Nyon et de Baf, Bad Boys for Life, et du mélo Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, de longs métrages qui font partie des trois plus grosses sorties du 22 janvier, mais on a préféré choisir d'autres films, n'est-ce pas Marine? Notamment un film très attendu.
Oui, tout à fait. Moi, je vais vous parler de Scandale avec eh bien, un trio de comédiennes, Nicole Kidman, Margot Robbie et Charlize Theron, et un autre film beaucoup plus confidentiel mais très intéressant qui s'appelle Swallow.
Et toi Manu, c'est des films plus confidentiels que Scandale?
Oui, un film indien notamment, hein, Le Photographe, et puis un film mexicain, Luciérnagas.
Et puis moi, je vous parlerai de Adoration de Fabrice Duvels. Et puis, eh bien, on jouera un blind test spécial Truand Gangster. Alors, ça n'a aucun rapport avec les sorties du jour, mais c'est parce que c'était un blind test que j'avais prévu lors, quand on a parlé du film de Martin Scorsese sur Netflix, The Irishman. Mais Anna Karina étant morte, on avait préféré faire un hommage à l'actrice française. Voilà. Donc, ainsi débute Cinérama, donc avec Scandale, film très attendu sur l'après-midi.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu.
Alors c'était sûrement une comédie.
La télévision est l'activité la plus concurrentielle au monde.
Si une chaîne veut tenir l'antenne 24 heures sur 24, il lui faut des arguments pour captiver le public.
Allez, mettre une robe plus courte.
On doit montrer nos jambes.
Alors ce qui est intéressant, vous allez voir, eh bien, c'est que Scandale utilise en fait dans la mise en scène, dans sa mise en scène, les procédés de la télévision qu'il dénonce. Alors à vrai dire, je ne sais pas vraiment si c'est juste paradoxal ou d'un cynisme totalement assumé. Scandale est intitulé à l'origine Bombshell, et comme souvent, le titre anglais a bien plus d'intérêt. Ici, Bombshell est un terme à double sens, qui signifie à la fois femme attirante et événement aussi inattendu que choquant. Des femmes attirantes comme les présentatrices de la célèbre chaîne Fox News, et un événement choquant comme le procès qu'elles vont intenter au principal dirigeant de la chaîne, Roger Ailes, pour harcèlement et agression sexuelle. Cette affaire médiatique, elle a vraiment existé, elle s'est passée en 2016, et ce sont les journalistes Megan Kelly, ici interprétée par Charlize Theron, et Gretchen Carlson, interprétée par Nicole Kidman, qui vont déclencher cet énorme procès à l'origine du mouvement MeToo.
Les femmes sont partout, elles jouent même au tennis et au golf.
Le comportement hors caméra était bien pire.
Vous croyez que d'autres femmes vous suivront?
Peut-être avez-vous entendu parler d'un différent m'opposant au candidat Donald Trump.
Il y avait du sang qui sortait de ses yeux, du sang qui sortait d'elle, partout.
Oh putain. Est-ce qu'il est en train de dire que j'étais énervée à cause de mes règles?
Je veux vous convaincre que je suis faite pour être à l'antenne, Monsieur Hayes.
Je dois être sûr que vous êtes loyal. J'ai besoin que vous trouviez un moyen de me le prouver.
Il faut que quelqu'un parle. Il faut que quelqu'un se révolte.
La présentatrice vedette de Fox News a la chaîne bombe aujourd'hui.
Elle va détruire ma chaîne.
Tout le monde met le t-shirt pour soutenir Roger.
Enfile-le. Vas-y, toi aussi.
C'est la fin d'une époque.
Je comprends bien que je dois rester en dehors de ça, hein.
Et toi, t'as compris que le pays tout entier ne parle que de tes règles?
Prête à entrer en guerre?
Oh oui.
Alors juste pour rappeler quand même un petit peu au cas où, hein, ceux qui peut-être étaient sur notre planète ces dernières années, MeToo, hein, c'était une vaste prise de conscience des violences sexuelles faites aux femmes, notamment donc dans le domaine du cinéma et de la télévision. Alors dans Scandale, eh bien, le choix de la forme est très fluctuant. Hein. On ne peut pas reprocher à la réalisation de Jay Roach, dont je viens d'apprendre qu'il était le réalisateur d'Austin Power.
Et de Mon beau-père et moi aussi.
Et de, avec Robert De Niro, incroyable. Et donc on ne peut pas reprocher à la réalisation de Jay Roach d'être paresseuse. On passe du style presque documentaire à la quasi-parodie d'émissions télévisées. Le style globalement est rythmé, teinté d'humour, notamment avec l'usage des voix intérieures de chaque personnage féminin. Il est en revanche, eh bien, un peu dommage, hein, justement, que ces personnages féminins soient aussi peu complexes, malgré le maquillage très réussi de Charlize Theron pour lui donner le même visage que Megyn Kelly, et malgré l'emploi d'environ 3 bombes de lac par chevelure d'actrice, les personnages principaux manquent un peu d'épaisseur, à part au niveau de la poitrine. Je vous rassure, pour le coup, il y a discrimination positive, hein, car les personnages masculins, eux, sont littéralement transparents. En même temps, raconter 3 ans d'aléas judiciaires, médiatiques, le tout porté par une dizaine de personnages féminins différents, laissait, c'est vrai, peu de place à la nuance et à la psychologie. Néanmoins, les mécanismes de l'emprise et du harcèlement sexuel sont très bien décortiqués. Les femmes ne sont ni montrées comme des saintes, ni comme des victimes, et surtout, eh bien, on voit comment des femmes habituées à être en concurrence les unes contre les autres vont trouver leur salut grâce à la solidarité féminine. Et ce qui est intéressant dans Scandale, eh bien, c'est qu'en plus de parler du parcours de ces trois personnages féminins, il est surtout question de Fox News, la chaîne en elle-même et de son fonctionnement. Une chaîne ultra-chrétienne, conservatrice, pro-Trump et qui est aux États-Unis une entité extrêmement clivante. D'un côté, certains Américains suivent Fox News de façon quasi religieuse et de l'autre, eh bien, une partie du pays considère cette chaîne comme l'instrument du diable. Scandale, c'est un film qui... sans être non plus brillant, hein, est intelligent et qui permet de vulgariser auprès du grand public un événement médiatique quand même très complexe. C'est également un film sans bien-pensance, qui est même assez ironique. D'ailleurs, la conclusion du film, c'est que, eh bien, pour le moment, hein, et malgré le mouvement MeToo, dès qu'un homme puissant aux pratiques douteuses est destitué, un autre, qui vaut rarement mieux, prend tout de suite sa place, en fait. Et on félicite quand même les distributeurs, mais alors vraiment, d'avoir réussi à caser une image de femme à poil qui n'a absolument aucun intérêt dans la bande-annonce d'un film qui parle de l'objectification des femmes. Alors ça, franchement, c'était très fort. Je l'ai vu dans la bande-annonce, je me suis demandé, mais pourquoi cette image, elle doit avoir un sens important dans le film? Non, 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 non. Ensuite, on retrouve donc cette image de femme qui se déshabille dans le film. Ça n'a aucun intérêt. Mmh. Voilà, bravo les distributeurs. Mmh.
Bon. Enfin, on aurait pu leur poser une question, faire une enquête, ce qu'on ne fera pas. Merci. Donc, Scandale de Jay Roach est en salle depuis le 22 janvier, tout comme Le Photographe, un film d'inspiration bollywoodienne.
This is Cinerama.
Et ça, c'est clair.
Alors, retour au pays hein, pour Ritesh Batra, jeune cinéaste indien, alors découvert en France en 2015 avec le charmant The Lunchbox, hein, succès critique et public, alors l'invitant alors à s'exiler en Occident, d'abord en Angleterre avec À l'heure des souvenirs, un film avec Charlotte Rampling, puis aux États-Unis pour une production Netflix avec Nos âmes la nuit, qui réunissait donc Robert Redford et Jane Fonda. Alors, Le Photographe débute comme une délicate rom-com, rien suranné, clin d'œil ironique aux productions Bollywood, conçu sur le même schéma social, mais derrière la bluette sentimentale alors faussement ingénue se dissimule une œuvre plus subtile et profonde, réflexion émouvante sur une rencontre improbable entre deux âmes en peine et la naissance d'un amour. Rafi survit comme il peut dans les rues de Bombay. Il fait partie de ces innombrables photographes de rue tirant le portrait des gens, des touristes pour la plupart, afin d'immortaliser leurs souvenirs. Célibataire endurci, la quarantaine, plutôt beau gosse, il traîne sa silhouette de loser assumé désabusé par une vie sans lendemain, son existence se résume à son métier et ses petites virées le soir avec ses copains, profitant de quelques roupies glanées ici et là. Mais il est le seul parmi son entourage à ne pas être marié, situation mal perçue en Inde, encore prisonnière de ses valeurs archaïques. En tout cas, sa grand-mère ne voit pas d'un bon œil son célibat et décide d'arrêter son traitement médical tant que son petit-fils n'a pas trouvé son hymen. Alors, comme par enchantement, la vie peut être surprenante, alors surtout au cinéma, hein, ce que n'ignore nullement Ritesh Batra, conscient de la mécanique artificielle de son scénario, Rafi croise la route de Miloni, qu'il prend évidemment en photo. Ils n'auraient jamais dû se rencontrer, elle qui vient d'un milieu aisé, progressiste et cultivé, tournée vers la culture occidentale. Une complicité s'installe entre eux au départ. Rafi a une idée plutôt saugrenue et amusante, rappelant les ressorts comiques des comédies, on va dire des comédies des années 50 et 40-50 d'Hollywood, imaginées par Lubitsch ou McCarey. Il demande à Miloni de se faire passer pour sa petite amie aux yeux de sa grand-mère dans le seul but qu'elle reprenne son traitement. Alors nimbé d'une lumière ocre et d'une caméra caressante dans un style alors volontairement publicitaire, atténuant le réalisme de certaines situations, le photographe a l'intelligence d'austère d'observer les comportements des personnages, à l'instar de Miloni, mutique de la première à la dernière image, qui se laisse guider par le charme de son prince charmant de Bombay, comme on entrerait dans un rêve. Alors la suite, vous la connaissez, ou plutôt vous pensiez la connaître, car derrière cette comédie romantique pleine de charme et de non-dit, le réalisateur dresse un constat social assez triste et finalement universel sur les rapports de classe. Le conte de fées est peu de chose face aux conventions sociales et aux valeurs traditionnelles qui perdurent. La modernité à laquelle aspire le pays à deux vitesses est en fin de compte plus économique que sociétale. La difficulté d'échapper à son milieu n'est pas un thème nouveau, ni celui des amours impossibles, mais Batra insuffle une ironie et une sensibilité assez rares dans ce type de production, loin des gros sabots du cinéma commercial indien. Alors à partir d'un refrain connu, Batra traite délicatement son sujet, la séduction du spectateur lui paraissant une étape nécessaire pour faire passer sa vision du monde. De plus, il s'avère un remarquable directeur d'acteurs, à commencer par les deux comédiens principaux, dont je pense que je vais écorcher les noms.
Vas-y, vas-y.
Nawazuddin Siddiqui et Sania Malhotra.
Parfait. C'était parfait. Voilà.
Au jeu très nuancé, mais la palme de la fantaisie espiègle en revient à Farouk Jaffar, grand-mère incroyable de naturel, au point de penser qu'il ne s'agit pas d'une actrice professionnelle. Mais si, j'ai regardé sa filmographie, elle a joué dans une vingtaine de films. Alors moins charmeur et facile que The Lunchbox, hein, le photographe est un film en trompe-l'œil, triste derrière sa forme visuelle et narrative séduisante et même parfois complaisante, se terminant par un épilogue magnifique, laissant un goût amer dans la bouche. La drôlerie de certaines situations et la joliesse plastique d'une mise en scène parfois agaçante ne sont que des enjolivures masquant intelligemment un beau film mélancolique, hein, ne sombrant jamais dans le mélo, restant lucide sur la difficulté d'aimer dans un monde qui n'accepte pas de briser la norme.
Alors, ce film a été poussé par le précédent succès du réalisateur en France, The Lunchbox, parce que c'est la quatrième sortie à peu près du 22 janvier, en termes de copies dans les cinémas. Ce que je trouve assez étonnant.
Oui, mais il y a eu un gros succès. Et puis il a quand même tourné deux films, on va dire, anglo-saxons, hein, avec des acteurs très très connus.
C'est vrai. Donc, en tout cas, on attend du monde pour voir ce film, beaucoup plus que pour Adoration, qui, lui, a beaucoup moins de copies. C'est le dernier film de Fabrice Duvels, un conte cruel sur un amour implacable.
Comment faites-vous pour choisir un film ?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser ?
Je suis pas malade, tu sais. Je sens juste quand les gens me veulent du mal.
Et tu sens quoi pour moi ?
T'es la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée.
Avec Adoration, conte cruel sur un amour absolu entre deux adolescents, le réalisateur Fabrice Duvels clôture sa trilogie des Ardennes, entamée avec Calvaire il y a presque 15 ans et Alléluia il y a 5 ans. Les thèmes chers au réalisateur sont les déclinaisons de l'état amoureux, mais sûrement pas dans ce qu'il a de plus simple et heureux. Hein. Il est question de dépendance, de jalousie, de folie. Et pour Adoration, le réalisateur belge emprunte ce qu'il appelle un réalisme poétique dans une filiation avec Franju, Cocteau, Melville ou Carné, mais en y plaçant une esthétique bien singulière et un récit plus tortueux. Dans Adoration, Fabrice Duvels place à l'écran un pré-ado, soit un jeune garçon frontière de l'adolescence, aux prises avec une fille psychotique. Ce qui les unit, la mère de Paul travaille dans une clinique à la campagne et la fille Gloria est évidemment une pensionnaire de cette clinique. Il ne fait aucun mystère pour le spectateur que la jeune fille, qui semble plus mature que Paul, a besoin d'être soignée, sinon encadrée. Mais leur rencontre va provoquer leur fuite. Emporté par ses sentiments amoureux, Paul va sortir Gloria de la clinique. Et les deux ados vont partir dans la forêt. Le naïf Paul, qui doit veiller sur la fragile Gloria, c'est ça le programme. Pour ce road trip aventurier, le réalisateur applique une mise en scène qui met en avant les sensations, musique, images sombres et contrastées, situation de deux corps dans la nature, aux prises avec le soleil, l'eau, la terre. La grammaire cinématographique ne varie pas et fait le pari d'immerger le spectateur au plus près des personnages en épousant le regard du garçon. Son regard bienveillant, sa mine ahurie, sa naïveté déconcertante, son état d'hébétude face à l'attraction irrésistible envers cette Gloria qui voit des choses qu'on ne voit pas. Une jeune fille parcourue d'hallucinations dont certaines sont terrifiantes et conspirationnistes, d'autres poétiques.
Tu sais pourquoi le ciel ment jamais ?
Non.
Parce que les étoiles voient tout. Elles murmurent aux oreilles des gens. Mais personne n'écoute. Moi, je les écoute. Elles me disent quand les gens mentent. Comme ça, personne ne peut me tromper.
C'est ce que t'entends.
Tu me crois ?
Oui.
Jure-le.
Je me jure.
Tu me quitteras jamais ?
Non, jamais.
Alors je t'aimerai toujours.
Voilà. Voilà donc bien du son à la française. J'espère que vous avez bien entendu. Donc ce sont les étoiles le ciel parle par les étoiles et elle sait quand les étoiles peuvent lui indiquer quand les gens mentent. Voilà. Oui, Manu, c'était toi qui n'avais pas entendu. C'est pour ça que je reprécise. Je me dis, mais peut-être que les auditeurs n'ont pas très bien entendu non plus.
Non, moi j'ai pas très bien entendu.
J'avoue que le mixage, alors ça c'est bon, c'est une part du film. Hein. Le mixage est aussi assez organique, c'est-à-dire que on entend les dialogues peuvent être sourds par rapport à l'environnement. Enfin voilà. Il y a quelque chose de cet ordre. Ce conte cruel qui s'incarne dans une mise en scène immersive et fiévreuse a beaucoup de qualités. Hein. Fabrice Duvels ne juge pas ses personnages, nous plaçant au niveau du regard de Paul. Le spectateur n'a d'autre choix que de suivre son chemin. Ce road trip adolescent est parcouru de rencontres avec des adultes, alors pas toujours heureuses. Celle avec un Benoît Poulvord bedonnant et tatoué donne l'occasion au réalisateur belge et bien d'user de la métaphore de l'oiseau, entamée dès le début du film avec Paul qui essaie de sauver un petit tombé du nid. Et là, le personnage de Poulvord qui garde un parc aquatique fantomatique, eh bien parle des oies. Alors je pense que c'est les oies, mais j'étais pas très attentif à ce moment-là. Donc c'est des oies, voilà, je crois, qui choisissent leur compagnon de vie une bonne fois pour toutes. Alors il n'en faut peut-être pas plus pour que le jeune Paul emprunte sa vie à ces oiseaux-là. Mais dans son cas, le don de l'amour confine à l'adoration et à une forme de folie. Adoration jouit d'un éclairage remarquable. Un soin particulier vient donner une dimension supplémentaire aux personnages et aux différentes scènes selon qu'on est placé à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors tous les intérieurs qui concernent Paul et sa mère sont peu éclairés, quand par contraste eh bien, les allées et venues de Paul dans la nature sont lumineux. Le visage de Gloria laisse voir des fêlures quand celui de Paul renvoie à une forme de pureté. Les deux comédiens sont également remarquables. Le jeune Paul est interprété par Thomas Giora, qu'on a vu dans « Jusqu'à la garde ». Et qui est là dans un tout autre registre. Je ne te laisserai pas parler de jusqu'à la gare de Manu, puisque tu vas le démolir, ce film. Et Gloria Fantine Arduin a débuté dans le film d'Haneke, Happy End. Donc elle y faisait déjà des choses pas très nettes hein, dans le film d'Haneke. Adoration, donc, de Fabrice Duvelst, fait partie des sorties du 22 janvier. Ce qui n'est pas le cas de Swallow, qui était déjà dans les salles bien avant cette date. Portrait envoûtant d'une femme sur le chemin d'une rébellion secrète, c'est ce que j'ai lu quelque part. Mm-hmm. Tu vas nous dire si c'est bien ça.
C'est un petit peu ça, ouais.
C'est un petit peu ça.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Why would you do something like this? I mean, what the fuck is wrong with you? This is the kind of thing that you're supposed to tell somebody about before you get married. You should have told me about this.
Hunter et Richie sont deux trentenaires menant une vie parfaite, totalement plate, hein, mais parfaite. Elle est une épouse modèle qui attend la plupart du temps son mari à la maison. Lui est beau comme une pub pour parfum Dior et totalement déconnecté des désirs de sa femme. Alors pendant toutes les premières scènes, on pourrait croire que l'histoire se déroule dans les années 70, tant l'atmosphère est figée jusqu'à ce que l'on découvre la jeune épouse, oisive, en train de jouer à Candy Crush sur son portable. Comme pour parfaire encore un peu plus cette existence rutilante et paisible, Hunter tombe enceinte de leur premier enfant. Mais cette grosse scène révèle en elle les symptômes d'une étrange maladie, un trouble du comportement alimentaire, le PICA. Alors faisons une petite pause, hein. Science et vie, chers auditeurs. Le PICA, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un trouble caractérisé par l'ingestion durable, donc pendant plus d'un mois, de substances non nutritives, et non comestibles, terre, craie, sable, papier, plastique ou cendre de cigarette. Il peut être induit par des déficiences nutritionnelles sévères, mais surtout par des facteurs psychologiques, donc s'il vous vient l'envie d'avaler une cigarette allumée ou un cendrier entier, Wikipédia recommande quand même de consulter un médecin. Voilà, on ne sait jamais. Alors comme le dit le personnage hein, elle-même, avaler eh bien, toutes sortes d'objets dangereux lui donne l'impression d'avoir le contrôle. Cela lui donne finalement le petit shoot d'adrénaline qu'elle n'a pas dans sa vie d'épouse esselée. Sauf que sa belle famille et son mari vont s'en apercevoir et tenter de préserver à tout prix l'enfant qu'elle porte. Alors sur une pareille trame, eh bien, on pourrait tout aussi bien dévier vers le film fantastique ou sur le huis clos cauchemardesque façon Polanski ou encore le thriller domestique à la Chabrol. Eh bien, Swallow finalement s'oriente vers une sorte de film initiatique. Il y a un côté Gone Girl aussi dans la façon élégante dont le réalisateur filme cette jeune femme figée qui va s'émanciper et qui va le faire de façon très trash. Cette femme au cœur du film, c'est Hayley Bennett, une jeune actrice très prometteuse que l'on a notamment connue dans le remake des 7 mercenaires, puis qui a montré un visage un peu plus trouble dans le thriller La fille du train. La comédienne, d'ailleurs, eh bien, est ici la productrice exécutive du film. Un cas de figure que l'on trouve de plus en plus lorsque les comédiennes en fait, veulent avoir des rôles intéressants à Hollywood, malheureusement. Elles se retrouvent dans l'obligation un peu de produire leurs propres films.
Je paye, voilà. Donc je veux... Merci.
Voilà, c'est un peu ça.
Voilà,
je le recommande. Alors, je sais qu'il n'est pas distribué vraiment dans beaucoup d'endroits, mais visuellement, c'est très intéressant. Le sujet ressemble à aucun autre film, je pense. Si vous voulez voir un film qui sort un peu des sentiers battus, voilà, je vous recommande Swallow. C'est un film de Carlo Mirabella Davis.
On fait une petite pause à propos de l'actualité en jouant au Blind Test spécial gangster aujourd'hui.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Et croyez-moi, ce ne sera pas long.
Alors, il va y avoir des choses faciles. Vous allez écouter 5 extraits de films où il y a des gangsters, des malfrats. Voilà, c'était donc un blind test que j'avais préparé à l'occasion de la sortie du film de Martin Scorsese sur Netflix, mais qu'on n'avait pas pu diffuser au moment où on a parlé de ce film. On commence avec un extrait, c'est très, très facile.
Salut Billy, ça va pour toi ?
Ça fait un bail que je t'ai pas vu, putain, 6 ans.
Ça va pour toi, Billy ?
Dieu puissant, mais regardez-moi ça. T'es beau comme un astre. Ça va ?
Fais gaffe au costume,
Mais quel phénomène ! Je te connais depuis qu'on est gamin.
Ouais.
Tu vas pas me snobber quand même.
Non, mais tu me casses pas les couilles, Billy, ok ?
Hé, Tommy, si je voulais vraiment te les casser, je te dirais d'aller chercher ta boîte à cirage. Quand il était gamin, il était génial. Les gens l'appelaient le glavioir, lui. Non, mais c'est pas des craques, tu lui donnais tes grolles, il te les rendait comme des miroirs, putain. Excusez ma grossièreté. Il était formidable, c'était lui le meilleur. Et il se faisait un paquet de thunes. Salut, Tommy.
Cire plus les chaussures, Billy.
Quoi ?
Cire plus les chaussures, ça fait un bail que t'es parti, t'es peut-être pas au courant, peut-être qu'on a oublié de te le dire. C'est fini, cire plus les pompes.
Relax, mec. Putain, c'est pas vrai. Je te casse un peu les couilles, mais c'est pas la mer à boire. On peut plus rigoler, nom de Dieu.
Voilà, bon, ça a été trouvé.
C'était Les Affranchis.
Eh oui, film qui retrace la montée et la chute d'Henry Hill. Et là, on entendait un de ses amis, Joe Pesci. 976 000 entrées en France. Deuxième extrait.
Il leur a dit qu'il préférait voir toute sa famille morte à ses pieds plutôt que de céder à leur chantage. Il a laissé repartir le dernier Hongrois. Il a attendu que sa femme et ses enfants soient enterrés, alors il s'occupait du reste de la bande. Il a buté leur môme. Il a buté leur femme. Il a buté leurs parents et les amis de leurs parents. Il a foutu le feu à leur baraque. Et au magasin où ils bossaient. Il a buté des mecs qui leur devaient du fric. Et là-dessus, il s'est envolé.
Il paraîtrait même qu'il a buté la boulangère, qu'il a une fois vendu aussi, un croissant.
Hein. Vous voulez du pain ?
C'est presque drôle, en fait, cette scène dans le film. C'est Kaiser Soze, donc Usual Suspect.
Oui, film de Bryan Singer, donc 5 criminels engagés par le fameux Kaiser Soze, qui se retrouve en garde à vue, 1,3 million d'entrées en France. Troisième extrait sera peut-être moins facile.
Tu me traites de con, Minus ? Non, j'ai dit une partie de baseball à la con.
Non, j'ai dit une partie de baseball.
Écoutez tous la petite fiotte. Hé, hey, c'est ça, t'as raison. Je suis petit et je suis une fiotte. T'as découvert le poteau rose.
Viens te battre, poule mouillée. Allez, viens!
Mais pourquoi faire, hein? C'est vrai, t'as gagné. T'es fort, t'as gagné. Tu as su établir ton statut de mâle alpha. Et tu as établi mon inutilité. Alors, user de violence sur moi me semble peu nécessaire et cruel. Tu crois pas? Viens te battre, pauvre pédé! Tu devrais plutôt me traiter de sale petite fiotte de ta mère.
Joli mot, fiotte de ta mère.
Le discours comme arme contre la violence, je pensais pas que t'allais trouver aussi facilement.
Ah bah c'est un film que j'adore, hein. History of Violence de Cronenberg, film de, je sais plus, 2005
2005 ou 2007, 2005, là j'ai un petit doute.
2007, c'est Les Promesses de l'Aube.
Avec Naomi Watts et Viggo Mortensen, donc c'est l'histoire d'un homme paisible, hein, père de famille, dont le passé de gangster ressurgit à l'occasion d'une exposition médiatique. Un film qui a très bien marché pour un Cronenberg, 804 000 entrées en France.
Et les jours venus, qui avertira Boris qu'elle ait rompu la trêve ?
Mais monsieur l'abbé lui-même, en te filant une grenade dans la tronche.
Ou en glissant un scorpion dans mon lit.
Oh, n'exagérons pas, on en réchappe.
Pas toujours. Leonid Bochakov à Lima et Willy Schmurt à Barcelona, ils sont restés.
M'accuserait-on ? Mais non, qu'est-ce que vous allez chercher là ? N'empêche que dans certaines de nos écoles, le coup du scorpion est désigné aux futurs agents sous le nom du coup du chanoine.
Et le coup du dynamitage du Boeing ? Avec 114 activistes bilougistanais à bord. Est-ce qu'il porte un nom ?
Jamais entendu parler de ça.
Et la liquidation du réseau Königsmark ? 40 personnes dans du mazout en flammes, c'est rien. Enfin, faut le faire.
Alors, là, ça sèche un peu. Film français sorti en 64 avec Lino Ventura, Bernard Reblier, qu'on a entendu largement. Et
les Barbouzes,
oui, les Barbouzes, c'est ça. 2,4 millions d'entrées en France. Et on passe au cinquième et dernier extrait qui normalement devrait être facile.
Et je ne peux même pas avoir des gosses avec elle. Sa matrice est tellement pollué que je ne peux même pas lui faire un bébé, tu te rends compte?
Petit salaud, tu me le paieras. Vieille fiotte.
C'est quand même pas des choses à dire.
Qu'est-ce que c'est que de parler à ta femme? Et pourquoi tu serais tellement supérieur à moi?
Alors,
qu'est-ce que tu fais de plus? Tu vends de la drogue et tu tues plein de monde. Une vraie merveille, ce monsieur. Bravo au grand bienfaiteur de l'humanité.
Vas-y, gueule-le à tout le monde, allez plus fort.
Tu veux un gosse?
Gueule-le sur les toits.
Parce que tu te vois en père, pauvre connard!
C'est
toi qui l'amèneras à l'école le matin! Et est-ce que tu seras même encore vivant au moment où le gosse ira à l'école?
Bah, c'est quand même un resto qui tourne mal. Hein. Enfin...
Oui, et comme c'est un Brian De Palma, hein, Scarface. Mais alors la version française, elle est épouvantable. Là.
C'était peut-être une version canadienne ici, hein, d'ailleurs. Hein. Film de 1983, donc avec Al Pacino, l'histoire de Tony Montana, un des films souvent cités parmi les grands films du cinéma mondial par de nombreuses générations. Allez, on termine ce cinérama avec un film mexicain, Regard sur l'exil.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Alors, Luciérnagas, hein, le troisième long métrage de Banu Khosnoudi, réalisatrice d'origine iranienne, alors qu'elle a vécu aux États-Unis avant de s'installer au Mexique. Mais il s'agit de sa première fiction pour cet artiste qui, jusque-là, s'était concentré sur la forme documentaire et celle, on va dire plus aventureuse, de l'installation et de la vidéo. Alors, c'est ce qui séduit d'emblée dans son film, hein, cette approche un peu hybride du cinéma qui tente de conjuguer les aspirations de plasticienne alliées à un désir de coller au réel. Alors, il en résulte une œuvre intrigante, mais jamais totalement incarné, hésitant entre plusieurs approches esthétiques et narratives. Le récit est plutôt ténu, hein, pour ne pas dire conventionnel, représentatif d'un cinéma du monde qui s'interroge sur des thèmes d'actualité plutôt sensibles. Alors Ramin est un jeune homosexuel fuyant la répression sexuelle et politique de sa terre natale, l'Iran. Passager clandestin dans un cargo en partance de la Turquie, il débarque à Veracruz au Mexique. Cet exilé se retrouve dans un environnement étranger qu'il ressent hostile dans un premier temps, loin de ses origines et de l'homme qu'il aime, resté à Téhéran. Alors pour survivre, il travaille au noir sur un chantier. Il va rencontrer un autre migrant, Guillermo, une petite frappe venue du Salvador, rêvant de partir aux États-Unis. Il va entamer également une relation platonique, bien sûr, avec la gérante de l'hôtel où il loge.
Allô, Hessam?
Allô, ma chérie,
je suis en train de me faire un bal en Turquie.
Alors progressivement, hein, Ramin va s'imprégner des lieux, ressentir un sentiment de liberté perdu depuis longtemps malgré la pauvreté sociale qui règne dans cette petite ville portuaire. Alors les Lucioles, hein, Luciérnagas, hein, du titre, envisage alors un horizon lumineux pour le héros. La cinéaste dit avoir voulu, à travers cette image, dépeindre un groupe d'individus qui émanent et communiquent dans la nuit en cherchant à se rapprocher sans jamais se toucher. Tiraillé entre son désir de partir en Turquie pour se rapprocher de son amant et son ouverture vers un autre environnement, Ramin sent qu'il doit prendre une décision importante. La construction narrative est surprenante, hein. Elle est totalement centrée sur l'Iranien durant la première demi-heure, via une caméra sensuelle observant cette silhouette solitaire avec beaucoup de compassion. Mais on sent que le récit s'essouffle, que tenir 1h30 avec un argument aussi mince et finalement déjà vu risque de lasser, d'autant que la réflexion sur l'exil et le sous-texte politique ne paraît pas très révolutionnaire, plutôt dans l'air du temps. En creux, la cinéaste livre alors un ressenti personnel sur son propre déracinement, sur ce chemin douloureux qui l'a conduit à quitter son pays. Alors Khosnoudi, hein, s'éloigne de façon surprenante alors de son personnage principal pour s'intéresser aux figures locales. En l'occurrence, Letty, la tenancière de l'hôtel. Elle n'est pas seulement présente alors lors de ses échanges avec le héros, mais on va finir par la voir seule dans son quotidien, avec son père, en sortie, avec l'appréhension aussi du retour de son homme. Cette curieuse digression un peu narrative ne fonctionne qu'à moitié, accusant d'un côté un problème d'écriture et aussi une envie de prendre des risques. Alors pour le reste, hein, le film fait quand même du sur place, ne sait pas trop où il va finalement. On finit par rester à distance et subir un ennui poli. Et pourtant, Bani Khosnoudi a du talent. Elle sait, à défaut d'installer une durée que l'on ressent, enfin, comme dans certains grands films qui peuvent avoir comme ça, qui peuvent paraître lents, mais dont on ne voit finalement pas passer le temps. Elle sait néanmoins composer des images magnifiques, des plans très audacieux et de l'entraveling savamment étudié. Cet aspect plastique détonne pour un cinéma social alors plus habitué à des mises en scène plus brutes, plus prosaïques, hein, préférant donc servir le propos par une urgence visuelle au lieu de se poser des questions de cinéma, à commencer celle de se demander où mettre la caméra, comment filmer une ville à la topographie aussi fascinante que Vera Cruz. Alors c'est tout à l'honneur, hein, de la jeune cinéaste, mais c'est aussi la limite du film qui est, je trouve, souvent très beau, mais qui distille peut-être un peu, on s'ennuie un petit peu en fait, sur 1h30. C'est un petit peu long, voilà.
Eh bien, c'était peut-être l'avis des exploitants de salles, puisqu'il est dans très peu de salles en France quand même, il faut le dire. Mais il est en salle en tout cas depuis le 22 janvier, et c'était la dernière chronique de cette émission.
C'est fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible !
Ah, si, je vous assure.
Non, vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule !
La semaine prochaine, on vous parlera eh bien, des traducteurs, film avec Lambert Wilson. Et puis toi, tu auras un duo.
Oui, moi je vais vous parler du Lion, un film avec Danny Boone et Philippe Catherine.